Bonsoir Emma.
Bonsoir.
Vous m'entendez bien Emma?
Oui, je vous entends.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive?
Alors, je me permettais de vous appeler, j'ai perdu mon papa en début décembre.
Oui.
Et
là, en début décembre
de cette année,
oui. Ah oui.
Et j'ai beaucoup de mal à le vivre. Et j'ai plein de sentiments, tant positifs que négatifs.
Mmh.
Je ne sais pas comment me situer. Et lors des funérailles, en fait, pour mettre un petit peu dans le contexte, mon père s'est marié il y a 2 mois.
Oui.
Suite à la maladie, pour certainement protéger sa nouvelle compagne.
Ah oui.
Mais ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble et donc du coup là c'était un peu pour officialiser un petit peu avec la maison, les papiers, enfin tout ce qui concerne un petit peu tout ça.
Ouais.
Et moi je m'entends pas particulièrement bien avec cette femme-là. Elle me fait un petit coup de chaud, un petit coup de froid, c'est-à-dire que dans les émotions c'est toujours très ambivalent. Elle a toujours été un peu jalouse et je m'en prends souvent plein la tête.
Oui, jalouse de vous. Vous avez des frères et sœurs?
Oui. Alors on est 5, c'est-à-dire qu'elle avait de son premier mariage 2 filles.
Oui.
Par rapport à mon père, elle a moi, mon petit frère, et ils ont fait un enfant en commun qui est du coup le dernier de la famille. Donc en fait, on est 5 enfants.
D'accord.
Et pour moi, là, les funérailles ont été très difficiles. Ça a été en 2 jours en plus parce qu'il y a eu le funérarium et que du coup, comme c'était l'après-midi, la cérémonie du cimetière était que le lendemain. Donc, je me suis mise un peu dans ma bulle. J'ai eu beaucoup de mal à gérer mes émotions. Et mes frères me l'ont reproché. Ma belle-mère tout autant.
Donc, en plein deuil, elle vous a fait des reproches?
Oh là,
c'est dur ça.
Elle m'a toujours fait des reproches, même quand mon père était encore vivant, en fin de soirée, très alcoolisé, c'est toujours moi qui prenais. Même quand je massais mon père pour qu'il se sente mieux, tout ça, enfin, masser les mains, j'entends, pour qu'il puisse se détendre un petit peu. Enfin, j'étais très proche de mon père sur plein d'aspects et très éloignée sur d'autres parce que du coup, notre relation entre elle et moi a fait que je mettais un peu de distance avec mon père pour éviter toute complication en fin de soirée avec des crises qui n'avaient pas besoin d'être là, en fait.
Vous semblez dire qu'il y avait l'alcool aussi dans la boucle.
Oui.
Oui. Du côté de votre belle-mère, c'est ça?
Oui, du côté de ma belle-mère.
Oui, oui.
Et donc, du coup, là, je suis assez fâchée après mon père. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas dire quand on vient de perdre un proche. Mais ouais, je l'aime de tout mon cœur et en même temps, je suis assez fâchée.
De quoi êtes-vous fâchée, Emma?
Je suis fâchée parce qu'il s'est marié il y a 2 mois. Je l'ai su 2 jours avant son mariage. J'ai appris ça le vendredi pour qu'il se marie un lundi matin dans la mairie de sa commune en catimini.
En catimini?
En catimini, j'entends, on l'a su, nous les enfants, 2 jours avant. Alors peut-être pas tous, mais en tout cas, moi je l'ai su 2 jours avant. Mon père m'en avait pas parlé, alors que j'avais l'impression que mon père échangeait beaucoup de choses avec moi. Et il a jamais voulu se marier avec cette femme-là, et 2 mois avant de mourir, il le fait. Donc déjà, ça m'a paru un peu... j'ai pas pu trop me réjouir de cette situation. Mais je me suis bien gardée de lui dire à ce moment-là. J'ai pas... voilà.
Votre père a fait le choix de ne pas vous convier à la cérémonie, même si c'était une cérémonie des plus simples?
Alors, ils ont convié personne. C'est-à-dire qu'ils se sont mariés entre 2 témoins un lundi. Un lundi matin, et il y avait une petite soirée entre guillemets le soir avec les enfants et 2-3 amis qui étaient là, mais c'était pas une grosse fête. Mon père était déjà très malade, donc c'était pas une grosse fête, mais voilà, on l'a su quand même 2 jours avant.
Et 2 jours avant, vous l'avez su comment? Par votre père?
Oui, ils nous ont fait une annonce. J'étais chez mon petit frère, donc l'enfant qu'ils ont en commun. Et le vendredi midi, ils me disent « on a quelque chose à vous annoncer ». Je me suis dit « oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il s'avère que, voilà, ils nous disent « on va se marier lundi ». Donc dans ma tête, je me dis « lundi quand ?»
Oui.
c'est rapide, quoi. Enfin, surtout que j'ai toujours entendu mon père me dire qu'il serait jamais ce truc-là, que pour lui c'était pas possible, c'était pas envisageable. Et parce qu'elle lui a gâché un peu la vie sur plein de choses, mais c'est la vie qu'il avait souhaité aussi. C'est-à-dire que mon père aimait beaucoup les amis, la fête, l'ambiance, le monde à la maison. Et elle était tout à fait comme ça, par rapport à ma mère qui, du coup, était pas du tout dans cette ambiance-là.
Plus sobre.
Voilà, plus
Oui,
sobre, oui. Et donc,
dans
cette
tous les
femme-là
sens du
lui a
terme.
apporté, oh, tout à fait, oui, lui a apporté tout ce qui lui manquait. Et donc, ça faisait 30 ans qu'ils étaient ensemble. Donc, je peux vous dire que c'est quand même assez vieux. Moi, j'en ai 37. Et depuis que je suis petite, je sais qu'ils se disputaient beaucoup à cause de moi. Donc j'ai raté beaucoup de temps avec mon papa à cause de ça, parce que je n'osais pas trop l'approcher. Et en l'an 2000, on s'est du coup rapprochés un peu plus, parce que j'étais une jeune fille, une jeune femme du coup, qui avait un compagnon. Donc, enfin voilà, mon père, il discutait un peu avec moi. Après, il travaillait de nuit, donc il passait me voir chez moi à ma pause, enfin à sa pause plutôt, pendant que moi j'avais ma première fille du coup.
Oui,
Donc
oui.
comme je dormais pas la nuit, bah il passait me voir. Il avait 1 heure de pause, il passait me voir. On s'était très rapprochés. Et puis elle a toujours été méchante, en fait. Elle pensait toujours qu'il n'était pas spécialement avec moi et que moi je le couvrais. Enfin, c'est tout un tas de choses comme ça. A contrario, par rapport à mes enfants, elle a toujours été respectueuse. Enfin, elle les a choyés presque comme les autres, en tout cas.
Oui.
Mais je sais qu'avec moi, elle a un problème. Et là, il s'avère que suite au décès, il y a forcément le notaire qui arrive. Et du coup, elle m'a envoyé un mail en me demandant de remplir une fiche d'état civil, donc de moi. Et comme je suis pacsée, il fallait l'état civil de mon conjoint, plus le livret de famille de mes enfants, parce que j'ai une famille pas forcément avec le même père. Donc, du coup, il fallait rapporter pas mal de documents.
Oui.
Et donc là, j'ai passé le 25 au soir chez elle, et ça a été très éprouvant pour moi, parce que c'était le premier Noël où mon père n'était pas là.
Bien sûr.
Donc c'était dans sa maison, parce que c'est sa maison à lui. Sauf que du fait du mariage, bah, ils n'ont pas fait de contrat de mariage, donc du coup, il s'avère que c'est plus sa maison, mais c'est sa maison à elle maintenant, jusqu'à ce qu'elle meure. Et après, ça va être divisé en 5, avec les 5 enfants. Et donc, ça me vexe un peu. Et je me dis, mon père n'a pas été si proche de moi, finalement, que ce que j'avais imaginé. Et là, elle me demande les papiers. Je lui dis, ouais, je ne les ai pas encore remplis. Elle me dit, bah, faut que tu te dépêches, parce que moi, j'ai rendez-vous au notaire le 6 janvier. Je lui dis, ah bon? Je dis, je suis pas au courant. Enfin, j'ai pas été convoquée, entre guillemets. Et elle me dit, non, c'est normal, parce que la maison, ton père m'a fait une donation de son vivant. Donc après, j'ai compris que c'était pas franchement le cas, mais comme ils se sont mariés, ça faisait office
C'est ça, ça
de
revient au même.
donation. Voilà, ça revient au même. Mais elle m'a bien encensée en me disant, ton père m'a fait une donation de son vivant. Donc du coup, vous n'êtes pas conviés, les enfants ne sont pas conviés au notaire. Donc il n'y a que elle qui est censée y aller, mais pour autant il faut quand même que je donne des documents personnels à cette personne-là. Donc du coup je suis pas très rassurée.
Donc, dans les dispositions qu'a prises votre père pour sa succession, donc c'est votre belle-mère qui hérite de la totalité jusqu'à la fin de sa vie, c'est ça?
Alors d'après ce que j'ai pu comprendre, comme il n'y a pas de contrat de mariage, ils sont à moitié-moitié sur la maison,
Oui.
qui était la maison de mon papa, parce que c'était la maison de sa mère. Mais mon père payait le crédit immobilier, et puis elle payait tout ce qui était externe. Mais enfin, vous voyez, tout ce qui va être les courses, les petits travaux, la décoration, enfin, tout ce genre de choses. Donc, je sais qu'elle a mis beaucoup d'argent aussi dans cette maison. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais le fait qu'elle me dise que nous, les enfants, on ne doit pas aller chez le notaire, ça me paraissait un peu bizarre. Donc, après m'être renseignée, il s'avère que normalement, non, à l'ouverture du testament, les enfants non, sont censés être là.
Oui. Et
D'après
ça,
ce que...
ben ça, Emma, je pense que vous pouvez prendre conseil d'un notaire de votre côté. Pour alors, ces questions-là, c'est probablement souhaitable.
Oui, alors moi j'ai appelé le mien de notaire. Malheureusement, il était en rendez-vous et partait en vacances à midi aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pas eu ma réponse. Et le secrétariat ne pouvait pas me répondre. Du coup, j'ai appelé un autre notaire que j'ai trouvé sur Internet.
Oui.
Et parce que je voulais pas appeler le vrai notaire de mon père, parce que je me suis dit, si jamais elle a vendu ça, ça va encore me retomber dessus. Et sachant que tout le monde est ligué contre moi, en fait, dans la famille, donc ma belle-mère, mes deux frères se sont plus ou moins fâchés avec moi suite à mon attitude lors de l'enterrement.
Parce que vos deux frères, eux, prennent mieux que vous le mariage, enfin l'annonce du mariage au dernier moment, ils le prennent mieux ?
Alors, je pense que pour mon frère issu de l'union commune, oui, il le prend pas si mal.
Oui, ça c'est logique.
Et je pense que de la part de mon autre frère, il le prend pas si bien. Mais c'est même pas encore trop le problème. Là, ce qu'il me reproche, c'est de pas avoir eu de mots ou de gestes pour lui ce jour-là. Alors que lui m'a pris les devants, c'est-à-dire qu'il m'a accompagné au niveau de la chambre funéraire pour dire au revoir à mon père. Il m'a pris par le bras, il m'a fait avancer parce que j'étais complètement tétanisée et que j'y arrivais pas. Alors que j'y étais allée deux jours avant toute seule et j'avais réussi à franchir le pas. Mais là, en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, où je me suis sentie un peu peut-être regardée ou peut-être pas, hein, je sais pas, mais j'ai eu du mal à me dire que c'était la dernière fois que je le voyais. Et je l'ai accompagné pendant deux mois. J'allais le voir tous les jours à l'hôpital. J'ai vécu des scènes qu'une fille ne voudrait pas voir.
J'imagine.
J'ai réussi à surmonter tout ça. Et le jour des cérémonies, j'ai pas été très à la hauteur, en fait. J'étais beaucoup dans mon chagrin et beaucoup toute seule, en fait. J'ai pas réussi à me mélanger aux autres. Et le premier soir, donc après le funérarium, ma belle-mère avait organisé un petit pot avec des amis, la famille, tout ça. Et personne ne m'a trop adressé la parole et je suis pas quelqu'un qui va trop au-devant des gens. Parce que la foule me panique un peu et surtout dans un contexte comme ça, j'ai pas l'aisance parce que mes frères, eux, l'ont fait. C'est-à-dire que verre à la main, en train de parler de leur vie, peut-être d'un souvenir de mon père ou je ne sais pas de quoi ils parlaient, mais en tout cas, ça a été, ils se sont vraiment bien mêlés à la société et pas moi.
Vos frères n'ont pas compris, Emma, que c'était le chagrin qui vous empêchait d'être dans la fluidité.
Du coup, à mon frère, du coup, qui n'est pas issu de la même mère, hein, qui est issu de ma maman à moi, je lui ai expliqué tout ça. On a fait un repas parce que du coup, il était vraiment fâché après moi. Et mes deux frères, qui de base ne se côtoyaient pas du tout, maintenant se sont rapprochés complètement. C'est-à-dire que moi, je suis plus invitée à rien. Ils font des choses entre eux. Je suis pas conviée. Et alors, soit je suis parano, soit effectivement, ils parlent de moi. Et donc, du coup, les deux me reprochaient plus ou moins la même chose, alors que les deux ne me connaissent pas de la même manière. Donc, dans ma tête à moi, c'est comme s'ils avaient quand même beaucoup parlé de moi. Donc, avec mon frère issu de ma maman, il m'a balancé des erreurs au téléphone parce que j'ai pas pris le soin de lui dire un mot le jour du décès, que je l'ai pas accompagné, que je lui ai à peine dit au revoir. Et en fait, si j'ai pas dit au revoir, c'est que je commençais à faire une crise de panique et que du coup, il fallait que je sorte de cette pièce, il fallait que je m'en aille.
Et ça, il me semble, Emma, qu'il y a un malentendu entre vous et vos frères. C'est-à-dire que vos frères pensent que vous étiez distante parce que vous désapprouviez le mariage et la situation, alors que votre distance n'avait rien à voir avec la désapprobation, même si vous n'êtes pas heureuse par ailleurs de ce mariage. Mais ce n'était pas la raison. C'est que vos frères ont amalgamé les deux. Ils ont pensé que vous étiez distante du fait de votre désapprobation, alors que vous étiez distante du fait de votre chagrin et de votre angoisse.
Complètement. Et puis cette histoire de mariage, à ce moment-là, on n'en parlait plus parce que mon père s'est marié. Ensuite, il a été hospitalisé. Donc, j'étais vraiment dans l'hospitalisation et avec mes visites quotidiennes. Donc, je n'étais absolument pas dans les reproches du mariage ou même avec mon père, je n'ai fait aucun reproche. Je n'ai pas émis mon avis. J'ai accompagné mon père comme une fille doit le faire et ni plus ni moins. Donc, même mes frères n'ont même pas à me reprocher de pas avoir kiffé l'idée du mariage parce que je leur en ai même pas franchement parlé de ça. Parce que c'était délicat par rapport à mon frère qui est issu du remariage. Et, Et comme avec mon autre frère, bon, c'était pas trop la question. Voilà, là, j'en ai pas. On en a discuté vite fait en se disant c'est un peu bizarre. Bon, bah, maintenant on comprend mieux parce qu'effectivement, bah, 2 mois plus tard, il est plus là. Et là, le Noël, ma belle-mère, elle a encore un peu pété les plombs sur moi parce que le 25 au soir, c'est tous les ans, c'est chez eux. Parce que le 24, tout le monde est un peu dans sa propre famille ou dans sa belle-famille. Donc, eux, pour embêter personne, ils ont tous les ans fait le 25 au soir le Noël. Et moi, ça a été très dur de venir faire le Noël dans la maison de mon père, sans mon père, avec
Surtout
une belle-mère.
si récemment.
Oui, c'est
Votre
ça.
deuil est très très récent.
Et qu'en plus, je suis plus ou moins fâchée avec mes frères, donc c'était un peu compliqué. Et je m'en suis encore pris beaucoup cette soirée-là. Et même à mon compagnon, ma belle-mère s'est permise de lui dire bah, elle est gentille, mais enfin, va falloir qu'elle arrête d'être le centre du monde. Alors que justement, je suis totalement dans ma réserve et que je n'ose jamais lui dire quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'elle ment, en fait, parce que je m'aperçois que plus on parle, plus fort qu'elle, en fait, plus elle se tait. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui finalement se laisse faire comme moi, mais moi, elle me fait un petit coup de chaud, un petit coup de froid. Vous voyez, elle me fait une réflexion, puis à côté de ça, elle va me dire, oh ben, je suis contente d'avoir vu tes enfants à Noël. Ou c'est tout un tas de choses comme ça. Je sais que quand elle avait sa société, elle m'a embauchée, donc pour me licencier derrière, mais elle m'a quand même embauchée, donc elle a quand même fait des gestes pour moi. Mais elle ne supportait pas ma proximité avec mon père. Et donc là, j'ai plus envie de la voir, cette femme-là. Et je ne sais pas comment faire parce que je me dis, c'est quand même la grand-mère de mes enfants. Mes enfants l'ont toujours connue.
Oui.
Donc je ne sais pas comment couper le lien. Le notaire n'étant pas passé, même si ça changera plus rien, j'ai pas envie d'être désagréable, j'ai pas envie de me fâcher avec mon frère qui est issu de cette femme-là.
Oui.
Et je suis complètement perdue, je ne sais pas comment faire. Et si j'appelle le notaire, elle va le savoir parce qu'elle sait tout. Je ne sais pas comment elle sait, mais elle sait tout. Je suis allée chercher un acte de décès à la mairie parce que j'en avais besoin pour ma mère et pour mon compagnon pour justifier une absence de travail et qu'elle ne me l'avait pas demandé. Enfin, elle ne me l'avait pas donné suite à ma demande. Donc, du coup, je suis allée chercher moi-même. Et le soir, elle m'a appelée vers 21h, 21h30, mais pas dans un état très frais. Et donc, elle m'a engueulée, excusez-moi du terme, mais elle m'a engueulée parce que j'étais allée chercher l'acte de décès. Et je lui ai dit, écoute, je vois pas où est le problème, c'est l'acte de décès de mon père, tu me l'avais pas spécialement donné, j'ai pas voulu te réembêter avec ça, pour pas te remettre dans le chagrin, je suis allée le chercher, ça m'a pris 5 minutes, j'y suis allée, enfin voilà. Et donc, du coup, pour elle, je lui ai fait derrière le dos, je fais un affront, c'est pas bien, enfin, j'ai eu droit à plein de choses. Et là, je sais pas comment lui dire que pour le notaire, moi, il est hors de question que même si finalement le résultat, je le connais, j'ai bien compris que du coup, comme il n'y avait pas de contrat de mariage, elle avait raison dans les faits où la maison serait divisée, enfin, la maison, pour l'instant, tant
Elle en
qu'elle est
a
encore
usufruit
vivante.
pendant toute sa vie.
C'est ça, et
Oui.
après ce sera divisé avec les 5 enfants, dont 2 qui ne font pas partie du coup de l'union de mon père. Donc déjà 2 en plus, mon frère en commun qui va avoir la part de sa mère et la part de mon père, c'est-à-dire que mon frère et moi, on perd la maison de notre grand-père, plus ou moins, enfin de notre père, pardon. On perd cette maison-là quand même grossièrement. Et ça m'ennuie un peu parce que je sais qu'il voulait pas se marier et je sais pas comment elle a fait pour en arriver là.
Oui.
Et que quoi que je dise, je me fais reprendre. Et là, jusqu'au 25 au soir, encore une fois, j'étais le centre de l'intérêt, alors que je suis plutôt distante et que j'essaye de pas m'imposer justement et jamais je dis un mot plus haut que l'autre devant elle pour éviter qu'elle me rabaisse. Elle m'a rabaissée, ça fait 30 ans que je suis rabaissée à chaque fois que je la vois.
C'est
Et
ça, il y a
donc
une
là.
rivalité. En fait, vous êtes la seule fille dans une fratrie de frères, donc elle n'est pas en rivalité avec les enfants masculins, moins encore avec le sien, avec votre père. Vous êtes celle qui pouvait être en rivalité avec elle pour l'amour exclusif, peut-être chacune de
Oh oui.
vous. forcément été en demande d'amour envers votre père, ce qui est normal, ce qui vous met d'une certaine manière en rivalité. Ça, c'est la situation, elle est structurellement comme ça depuis que cette femme est entrée dans la vie de votre père.
Oui, mais en fait, quand elle me regarde, elle voit ma mère. C'est-à-dire qu'elle est tellement jalouse, même par rapport à ma mère, elle est complètement odieuse. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand elle me voit, elle voit ma mère.
Votre père et votre mère avaient encore des liens
Oui, des liens, alors on s'entend, hein, mais quand je faisais l'anniversaire de mes enfants, je sais que j'ai fait les 11 ans de ma fille et les 1 an de ma dernière. Comme j'ai pas fait de mariage, j'ai pas fait de baptême, j'ai pas fait tout ça, j'ai fait une grosse fête ce jour-là avec un barnum, enfin un traiteur, enfin quelque chose de très bien. Et donc ils se côtoyaient encore, ils se sont croisés à ce moment-là. On a tous chacun des enfants, donc c'est arrivé qu'ils se croisent. Mon père et ma mère avaient pas des relations forcément cachotteries, mais avaient certaines relations, oui.
Emma, il me semble que dans toutes les difficultés qui sont liées à cette situation, il y a des difficultés de plusieurs ordres. Il y a votre mésentente de toujours avec votre belle-mère.
Oui.
Il y a la situation qui s'est tendue avec vos frères. Il y a la question de la succession et du testament. Et il y a ce qui me paraît, moi, la question peut-être la plus importante pour la suite de votre vie, c'est la difficulté que vous avez à faire le deuil de votre père dans un contexte où vous lui en voulez. Et ça, c'est une douleur qui est entre vous et vous. Et,
oui.
Et je crois que c'est la question la plus importante. Parce
je
que,
suis assez d'accord
voilà.
Avec vous, excusez-moi de vous couper, mais les 2 mois où je l'ai soutenu tous les jours, mes enfants ne me voyaient plus. Hein, je suis en formation en ce moment, je rentrais très très tard, je restais avec lui à l'hôpital. Ça a été vraiment des moments très durs. J'étais pas du tout dans la méchanceté avec mon père, je lui en voulais de rien, je l'ai encouragé, je l'ai aidé, j'avais pas de ressentiment particulier, mais c'est en voyant la fin et en me disant que ma belle-mère, tout ce qu'elle me reproche, c'est qu'elle ne sort pas de nulle part, même si je sais que 50% de ce qui sort de sa bouche n'est pas forcément vrai, je me dis, voilà, tout le monde s'est un peu ligué contre moi, mon père finalement, il a fait, alors qu'il m'avait dit qu'il se marierait jamais avec elle, il l'a quand même fait. Bon, je n'en ai pas tenu rigueur parce que je m'étais dit c'est une histoire de nom. Elle voulait porter son nom. Peut-être qu'il a voulu la valoriser sur ce sens-là. Et ça, en me disant ça, ça me choquait moins. Sauf que là, en fait, c'est tout un amalgame qui fait que moi, là, tout de suite, je me dis mon père, il n'a pas pensé à moi particulièrement.
Là, vous le dites, Emma, c'est ça la question la plus douloureuse de la situation. C'est que vous sentez une blessure d'amour entre votre père et vous, dans la façon dont il a pris les décisions pour la fin de sa vie.
Oui, mais enfin, mon père, c'était quand même l'homme de ma vie. Et enfin, l'homme de ma vie, je m'entends, mais c'est le premier homme qui m'a aimée. Et on avait une très belle relation. Et là, je me dis, c'était du vent, tout ça. Enfin, j'étais rien, en fait. Elle a réussi à l'embobiner pour que finalement, je ne sois rien.
Oui, je comprends que vous disiez ça, c'est justement cette pensée qui vous jette dans une telle douleur. Parce que j'ai envie de vous dire, Emma, je pense que la question la plus importante, c'est celle du deuil de votre père et que vous puissiez trouver dans ce deuil une certaine paix. Je suis pas en train de dire que vous devez vous accommoder de ce qu'il a décidé, de trouver ça bien, ni de pardonner, c'est pas ça. Mais c'est trouver une certaine paix. Avoir une intime conviction en vous sur ce qui s'est passé, réfléchir aux choses, les repenser, pour que vous puissiez faire un deuil plus paisible de votre père. Et je pense que si vous retrouvez cette paix à l'intérieur de vous, je pense qu'il y a de fortes chances que d'autres choses se dénouent en aval. C'est-à-dire que si vous, vous êtes mieux, je pense que des choses vont s'adoucir avec vos frères et puis vous mettrez une certaine distance avec des sujets qui ne sont pas au cœur de votre vie, du type ce que peut penser votre belle-mère désormais. Donc, je crois que vraiment les choses commencent par là. C'est d'essayer de trouver un chemin pour faire le deuil de votre père dans le, en ligne avec la belle histoire que vous avez vécue et en intégrant les décisions qu'il a prises. Et moi, je serais tentée de vous dire, est-ce que vous avez envisagé de vous faire accompagner là maintenant pour cette question-là? Parce que c'est là typiquement que la thérapie peut vous aider. Parce que là, vous êtes très seule, Emma, et ça doit être très difficile, parce que vous êtes la seule à vivre ce que vous vivez. Vos frères ne vivent pas la même histoire. Ils n'ont pas eu la même relation avec votre père, ils n'ont pas la même relation avec votre belle-mère, ils n'ont pas la même position dans la fratrie, et pour le dernier, il n'a pas la même position par rapport au couple. Donc vous êtes seule à ressentir ce que vous ressentez, vous ne faites cause commune avec aucun des membres de la famille, indépendamment des disputes. Donc je pense qu'il y a quelque chose là qui est votre chemin entre vous et vous. Comment vous pouvez faire le deuil de cette relation qui, d'un côté, a été très forte, idyllique même. Vous avez eu une très belle histoire avec votre père, mais qui, à la fin de la vie de votre père, de par les décisions qu'il a prises, vous a blessé. Et ça, je crois que c'est typiquement le type de question qu'on peut aller poser en thérapie.
Pour que justement, vous... je suis suivie déjà depuis au moins 2 ans. Donc c'était bien avant le décès de mon père, mais parce que j'ai déjà une fragilité. J'avais fait une grande dépression il y a 13 ans et je pouvais même plus sortir de chez moi. J'avais peur de la foule et donc le décès m'a remis un petit peu là-dedans. Au moment de la cérémonie, j'entends.
Oui, oui, vous m'avez dit que vous aviez une sorte de crise d'angoisse, de claustrophobie.
C'est ça. Et là, par rapport au décès de mon père, qui était début décembre, jusqu'au 25 au soir, j'étais pas fâchée après mon père. J'ai eu un décès qui était complètement normal. Et en fait, c'est ma belle-mère qui, encore une fois, m'a mis de l'huile sur le feu en me disant que non, moi, j'étais personne pour aller chez le notaire. Et que, vous voyez, c'est ce côté un peu encore qu'elle a de m'écarter de la famille. Parce que, mis à part ça, j'ai un problème, c'est que je n'arrive pas à m'affirmer. C'est-à-dire que je vais entendre la version d'un de mes frères, je vais être d'accord avec lui. Je vais entendre la version de ma belle-mère, je vais pas forcément être d'accord, mais je peux éventuellement entendre 2-3 choses. Mon autre frère, c'est pareil, je peux entendre sa version. Et en fonction de là, avec la personne avec laquelle je me trouve, j'arrive facilement à être d'accord. Et puis quand je réfléchis de côté toute seule, je me dis non, en fait, je me suis fait avoir. C'est-à-dire que je n'ai aucun caractère. C'est-à-dire que je ne sais pas m'affirmer et je ne sais pas comment faire. Parce que est-ce que c'est judicieux de me couper de cette femme-là qui m'a pourri la vie pendant 31 ans? Oui, ça l'est judicieux. Par rapport à mes enfants, est-ce que je peux lui faire subir ça à cette femme-là? Je ne sais pas.
Là, vous êtes dans tous ces sentiments à quelques semaines du deuil. Les sentiments évoluent toujours. Ça ne veut pas dire que vous allez changer radicalement de point de vue, mais je crois que c'est trop tôt pour que vous puissiez vous projeter loin dans l'avenir pour dire « je vais priver cette grand-mère de ses petits-enfants ». Je crois que c'est trop tôt. Là, il me semble que l'urgence, c'est que vous soyez mieux, parce que vous le dites, vous n'étiez pas dans le ressentiment envers votre père, mais la scène du 25 décembre a causé des blessures. Donc, je pense que c'est de ça qu'il faut s'occuper en premier, et de veiller à ce que les faits et gestes de votre belle-mère ne viennent pas entacher la belle relation que vous aviez avec votre père et ne viennent pas jeter une ombre sur le deuil. Je crois que là, vous avez à préserver votre deuil de toute interférence pour que cet adieu, en fait, hein, parce que le deuil, c'est quand même un adieu, en tout cas pour cette vie que vous avez partagée avec lui, puisse se faire vraiment... J'avais presque employé le terme spirituellement, c'est pas religieux ce que je dis là, mais que les choses puissent se faire vraiment entre vous et votre père.
Justement, j'ai une question là-dessus, et je ne sais pas si c'est dans vos cordes, mais je me dis... J'ai demandé des signes à mon père depuis qu'il est décédé. Je lui demande des signes régulièrement. J'ai des rituels, j'allume des bougies, je fais tout un tas de trucs. Non pas que je sois folle, mais j'essaie de me rapprocher de
lui. Je ne crois pas du tout que vous soyez folle.
Et j'essaie de l'interpeller et j'ai pas de réponse. Et c'est perturbant parce que dans ma tête, je suis pas spécialement croyante du tout. J'y connais pas grand-chose en religion, mais j'essayais toujours de me mettre à la portée de mon père à ce moment-là en me disant il va me faire un signe, il va me laisser un petit message qui va m'apaiser et je vais demander bêtement et ça n'arrive pas et
Oui,
c'est
je comprends tout à fait votre question. Tout à l'heure, dans la chronique que vous avez peut-être entendue, on a parlé de ce qui peut se transmettre d'une personne à une autre. Est-ce qu'il y a des choses qui se transmettent une fois que, après la mort? On ne sait pas. La science cherche, la science avance. Il y a certainement des transmissions qu'on ignore encore. Donc, il y a des possibilités et de toute façon, les différentes spiritualités à travers le monde, dans les différentes cultures, sont plutôt allées dans le sens d'une foi, dans ces possibilités de transmission. Mais en revanche, quelque chose dont je suis sûre, Emma, pour avoir étudié aussi bien les hypothèses scientifiques actuelles que les pratiques spirituelles, parce que finalement, quand on dit que les vœux se transmettent de cœur à cœur, c'est aussi bien un postulat spirituel que quelque chose que la science essaie d'éclairer. Enfin, c'est la même chose. Il y a quelque chose dont je suis sûre, c'est que par rapport à ça, si vous demandez des signes que vous vous mettez dans un état de prière ou de demande, toutes les traditions spirituelles s'entendent pour dire qu'il faut le faire sans attachement au résultat. Donc, pour ma part, je suis pas capable de vous guider, parce que là, c'est pas ma discipline. Je suis juste
Je
capable de
comprends.
vous transmettre ce que culturellement je sais pour avoir étudié ces traditions spirituelles bouddhistes, chrétiennes pour la partie enseignement en tant que maître spirituel, pour les différentes sagesses. C'est que quand on demande des signes, il faut le faire sans objectif, sans stratégie et sans attachement au résultat. C'est-à-dire, pas dire je veux un signe pour faire justice, faire obstacle à ma belle-mère, pour rétablir le testament, etc.
Ah non, c'était pas du tout,
Voilà.
c'était pas du tout les signes que j'avais demandé. Mais si j'ai encore un peu le temps, je voulais vous expliquer quelque chose aussi, c'est que je voulais effectivement pas fêter Noël cette année parce que pour moi c'était trop pénible.
Oui.
Sauf que j'ai 3 enfants et que je me suis dit je peux pas les priver d'un sapin. Et donc le jour où je me décide de prendre un sapin, de le décorer avec eux, je me lève le matin, le sapin était par terre. Et j'avais des décorations qui sont bon cassées, ça c'est pas très grave, mais comme le jour du décès, il n'y avait pas d'étoiles dans le ciel, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit bah comme il n'y a pas d'étoiles, je lui dis on va dire que papy c'est la lune. Et j'avais une petite lune, et du coup ma lune elle s'est cassée de mon sapin, vous voyez, c'est très bête. Mais moi ça m'a rendu mal, je me suis dit qu'il était fâché après moi, je me suis dit que c'était pas, il y avait quelque chose qui lui déplaisait, je savais pas quoi.
En tout cas, d'après ce que je sais des traditions spirituelles, il est impossible que quelqu'un qui serait devenu pure conscience, si on pense qu'il y a quelque chose, soit fâché après vous. Ça, je pense que c'est un effet de votre angoisse.
Oui, je
Donc,
me doute bien que c'est pas très rationnel ce que je vous dis, hein. Il y a
mais
pas
je
de.
vous comprends, parce que l'angoisse, c'est irrationnel. Donc, je comprends que vous disiez ça. Vous savez, de façon très sûre, pour le coup, je pense que votre manière de chercher des signes, de mettre de la poésie dans votre deuil, de chercher la présence de votre père dans des astres, une manière de poétiser son absence, ça, ce sont des choses très positives et très constructives pour votre deuil. Ça, pour moi, c'est des choses qui sont dans la bonne direction. Mais je pense que pour que vous puissiez faire ça, il s'agit de vous mettre le plus possible dans une sorte de bulle. Et pour le moment où c'est le début de votre deuil, de ne pas trop mélanger pour l'instant les questions juridiques, notariales, les conflits avec votre belle-mère, les conflits avec votre frère. De rester pour l'instant sur le soin que vous avez à prendre de vous-même pour ce deuil. Et votre façon de chercher des signes, de mettre des belles images sur la disparition de votre père, pour moi, ce sont des façons d'avancer dans votre deuil.
D'accord, mais en fait là c'est parce que le temps me presse, c'est pour ça que je pense déjà à ces démarches-là, C'est parce qu'a priori, le rendez-vous du notaire serait le 6 janvier et que je n'ai pas encore été, moi, convoquée. Et comme je sais qu'elle a déjà fait des faux et des usages de faux, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle, je me dis, est-ce qu'elle a fait des papiers pour que je puisse pas assister? Donc, je voulais un peu savoir aussi au niveau des auditeurs s'ils ont déjà connu ça. Est-ce que un notaire nous prévient les enfants, ou est-ce que c'est à la nouvelle conjointe qui doit redispatcher le rendez-vous? Enfin, tout ça pour moi c'est important. Elle
Oui.
m'a tellement embêtée dans toute ma vie que je voudrais pas me faire encore avoir sur ce genre de procédé, en fait.
Alors, je comprends, Emma, vous en appelez aux auditeurs, donc je passe la parole à Paul qui va vous dire ce qu'il vous conseille.
Oui, parce qu'on a eu des messages d'auditeurs qui ont donné des conseils sur tout ce qui est juridique à Michel, par exemple, qui dit sans contrat de mariage, sans testament, votre belle-mère devrait avoir droit à la moitié des biens, plus l'usufruit de la maison. L'autre moitié devrait être partagée par les enfants ou ayant droit. D'autre part, sauf erreur, les héritages passés ne rentrent pas dans la nouvelle succession, puisque ce sont des biens propres à votre père. Et alors, il y a aussi au 09 69 39 10 11 Annick ou Carole qui vous ont conseillé de ne rien donner à votre belle-mère et de ne rien signer sans en avoir parlé au notaire avant. Vous avez votre propre place en tant que fille, et donc si le notaire a besoin de quelque chose, il vous le demandera. Et puis, ce petit message de Christian, qui dit qu'on sent quand même beaucoup d'amour pour votre père. Il y a aussi beaucoup d'émotions en vous. Et quant à l'attitude de votre belle-mère, peut-être pourriez-vous prendre un peu de recul afin d'éviter d'en arriver au mépris. Et puis, vous êtes une femme sage, je n'ai aucun doute, vous saurez le faire, dit Christian.
C'est gentil, merci beaucoup.
Emma, donc, oui, les auditeurs vous incitent aussi à cette distance, à défendre vos droits, à vous informer, mais à prendre aussi cette distance par rapport à des choses qui, bientôt, auront moins d'importance dans votre vie.
Oui, tout à fait.
Comme la relation avec votre belle-mère, ce qu'elle en pense, ce qu'elle peut faire, pas faire, voyez. Et
oui.
Donc, ce qui se dessine, c'est deux pôles. C'est effectivement vous intéresser, vous avez raison, c'est important, vous intéresser à vos droits et par ailleurs, vous prendre soin de votre deuil.
Mais elle m'a tellement humiliée que j'ai pas envie que ça continue, parce que j'avais dit qu'une fois que mon père serait plus là, j'ai gardé le courage pendant toutes ces années. Parce qu'il était là et par respect pour lui. Maintenant qu'il est plus là, j'ai plus à m'infliger. J'ai un manque de confiance en moi. Je suis en thérapie à cause de ça. Et tout vient un petit peu de là. Et donc maintenant, j'ai envie de faire barrière, mais je veux pas me fâcher avec mon frère non plus. Enfin, c'est beaucoup de questionnements divers et variés.
Je le comprends, mais ça, c'est trop tôt. Vous voyez, je pense que vous pouvez difficilement tout traiter en même temps. Je pense que déjà, si vous arrivez à traiter la question très légitime de vos droits d'une part et de l'autre, puisque vous êtes en thérapie, avancez dans le chemin de votre deuil pour trouver une certaine paix, pour peut-être trouver le mode de communication, les rituels entre vous et votre père, entre vous et le souvenir de votre père qui vous conviennent. Tout ça sont des façons de faire le deuil. Et quand vous serez un peu avancé, plus paisible, que vous aurez un peu élaboré vos pensées, vous serez au clair dans votre façon de ressentir les choses, vous allez trouver des solutions, vous allez voir des options par rapport à vos frères, à votre belle-mère. Vous verrez bien à ce moment-là. Je crois que là, c'est trop tôt. C'est un tel choc ce qui vous est arrivé pour une relation tellement proche que vous ne pouvez pas tout traiter en même temps, vous voyez ?
Oui, je vois.
Oui. Et je trouve que là, pour reprendre votre terme, il y a des petits astres dans votre tête et dans votre esprit pour avancer dans ce deuil, pour l'adoucir pour vous-même et pour vos enfants. Donc, je crois que c'est vraiment vers ça qu'il s'agit de vous avancer.
Je vous remercie beaucoup.
Écoutez, avec plaisir, Emma, je vous envoie beaucoup, beaucoup de courage pour ce chemin. J'espère que la nouvelle année vous apportera un apaisement et je vous embrasse.
Moi aussi, encore un très bel anniversaire à Paul et tous mes voeux pour la nouvelle année.
Merci
tout le monde.
Beaucoup. Toute l'équipe vous entend et Paul vous sourit.
Merci beaucoup et bonne soirée.
Au revoir, Emma.